Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme moi, vous avez sans doute suivi dans l'actualité tout ce qui s'est passé ces derniers temps à Marseille, avec ces immeubles vétustes qui s'effondrent, cette situation ubuesque qui culmine avec un balcon qui se décroche et tombe en plein sur les manifestants qui justement dénoncent l'état de délabrement de leur quartier. En termes de signe du destin, ça se pose là. Plus généralement, il n'y a pas que Marseille. À Charleville-Mézières aussi, un immeuble s'est effondré tout récemment. Puis si vous regardez bien, autour de chez vous, pas très loin, vous trouverez sans doute des bâtiments murés, des signes de dégradation de notre espace urbain. Derrière tout ça, il y a une question. Comment vont vieillir nos villes? Comment vont-elles se réorganiser dans les prochaines années, les prochaines décennies? À quoi ressembleront-elles demain? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour installer un peu le décor, on s'est d'abord intéressé à l'histoire, à la façon dont nos villes ont été pensées. Et pour nous débroussailler la voie, on a pensé à un historien du droit et de l'architecture, Robert Carvet. Il est directeur de recherche au CNRS. Et je suis allé chez lui, dans le 9e arrondissement de Paris, pour lui demander si nos villes vieillissent mal.
Nos villes vieillissent mal forcément, puisque on a face à nous, lorsque la ville s'élève, des problèmes techniques, des problèmes humains, des problèmes de vivre ensemble, comme on dit communément. Mais on a forcément des villes qui vieillissent mal, qui surtout qu'elles n'ont pas été pensées pour durer longtemps. C'est ça la vraie question, en fait.
C'est ça ma question, c'est effectivement, vous l'avez bien compris, qu'est-ce qu'est celle qui sous-tend. Est-ce que les villes hier ont été pensées pour demain?
Alors sur cette grande question, évidemment, on ne peut pas répondre de manière très très générale. C'est toujours très difficile. Il faut véritablement faire du cas par cas, de l'étude fine d'archives pour se rendre compte si véritablement il y a eu une pensée de la durée de la construction. On dit que les constructions sont prévues pour durer une centaine d'années, mais c'est une idée très 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 générale. Jamais cela n'a été véritablement écrit. On parle évidemment dans nos sociétés de consommation ou post-consommation, on est dans une idée que finalement, il y a une sorte d'obsolescence programmée. Et on parle de cela même pour les villes, pour les constructions.
Mais est-ce que historiquement, justement, puisqu'on est dans une perspective plus historique là, est-ce qu'historiquement c'est un sujet qui a été pris en compte par les pouvoirs publics, cet entretien des villes ou ce risque de dégradation des villes? Ou alors est-ce qu'un peu comme dans le cas de Marseille, on attend qu'il soit trop tard pour que ça devienne un sujet?
Alors, on a les institutions publiques et les gouvernements, l'État, dirions-nous, a systématiquement à chaque époque prévu des modalités. Je retrouvais récemment un texte qui disait qu'à Marseille, effectivement, lorsqu'un bâtiment était, c'était assez étonnant parce que ça recoupait l'actualité, lorsqu'un bâtiment était en mauvais état, on pouvait le faire démolir en une semaine. Voilà, c'est assez phénoménal, mais alors ça a toujours existé. Maintenant, est-ce que les textes ont toujours existé? En tout cas, à partir du XVIe siècle, la ville et l'État ont véritablement prévu l'intervention des pouvoirs publics pour résoudre la question. Alors, résoudre la question, ça veut dire quoi? Essayer de prévoir le moment où, effectivement, on atteint un point de non-retour dans la qualité du bâtiment. Voilà, donc tout ça, c'est une procédure qui est réglée depuis très longtemps. On ne pense pas qu'aujourd'hui ça se perfectionne, dirions-nous, mais on peut arriver à des accidents. On peut arriver à des accidents parce que c'est une question d'évaluation du risque. Et la question d'évaluation du risque, même en matière d'ingénierie, est très difficile. C'est véritablement la question de la confrontation entre la société, finalement, et la technique. Jusqu'où peut-on imaginer connaître le point de rupture? Alors les ingénieurs vont vous dire le point de rupture, mais on voit avec les accidents qui arrivent tous les jours, il y a le pont de Gênes, il y a Marseille, d'autres villes où il y a des accidents, des balcons qui s'effondrent, des façades qui s'effondrent. C'est pas courant, mais véritablement, c'est une question très très générale finalement de l'évaluation du risque. Et je ne sais pas si encore on a un recul suffisant pour véritablement tout prévoir.
Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est pris en compte avec assez de sérieux par les pouvoirs publics, ou est-ce que on est dans le, on va dire dans la réaction plutôt que dans la prévision?
Alors normalement, des politiques de prévision, l'idée de la prévision est dans l'essence même de la politique. Est-ce que on arrive à ses fins, c'est-à-dire à tout prévoir? Non. Il est évident qu'on n'arrive pas à tout prévoir. On essaye de prévoir certains éléments, mais pas l'intégralité de ce qui pourrait nous éviter les catastrophes. C'est une évidence. Les pouvoirs publics font des choses sur le plan concret. Je pense qu'il faut examiner d'ailleurs ces éléments-là de manière très concrètement, à partir d'archives, à partir de décisions précises et sur des temps courts. Je suis assez pour faire des études de micro-histoire, c'est-à-dire prendre un quartier, une rue, et de voir véritablement comment, quelles sont les précautions qui sont prises par les pouvoirs publics de la ville, de la cité elle-même, des voisins, aujourd'hui avec le rôle finalement du citoyen, avec l'économie participative que l'on peut avoir. Évidemment aussi le rôle de l'État au-dessus, hein, qui prévoit à grande échelle, mais qui ne peut pas évidemment tout prévoir. Je pense qu'il est intéressant de finement analyser cela pour voir si, jusqu'où a pu être faite cette prévision d'un éventuel effondrement de galeries souterraines, effondrement parallèle, disons, si un immeuble s'effondre, il va finalement détruire aussi les immeubles voisins, etc., etc. Moi, je peux vous donner aussi mon sentiment, c'est que quand on a parlé du pont de Gênes ou de Marseille, je peux vous dire que j'étais très étonné de ne pas avoir plus de réactions. On est dans, véritablement, parfois le déni, c'est-à-dire qu'on voit les réactions des politiques, c'est quelquefois n'importe quoi, il faut dire ce qui est. Les deux arguments qui ont été invoqués par Godin, c'est la pluie, hein, et deux, l'État aurait dû faire des choses. Tous les responsables, finalement, politiques, lorsqu'il arrive une catastrophe, essayent de se défausser. Rarement, les politiques font face, véritablement, à ces catastrophes. Je suis même étonné, d'ailleurs, même s'il y a eu beaucoup de presse sur ces événements, je suis étonné parfois du vide, même dans la presse, hein, de ne pas avoir de réaction aussi forte. C'est quand même véritablement un scandale, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, surtout quand on examine et qu'on commence à avoir des éléments de réponse, la prévision, aussi bien pour Gênes que pour les éléments de Marseille, c'est assez étonnant. Il y avait des choses qui étaient en cours ou qui avaient été annoncées dans les mois précédents et voire dans les années précédentes. Mais enfin, les choses étaient connues, les dégâts étaient connus. Donc, on est un peu étonné de la désinvolture des politiques de répondre en rejetant la faute sur finalement la pluie, donc ce qu'on ne contrôle pas, et puis l'État, c'est-à-dire un autre pouvoir politique.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que le plafond nous tombe sur la tête, ou est-ce qu'on prend les choses en main et on commence à imaginer la ville du futur, celle dans laquelle on vivra, vous et moi, dans 10, 20, 30 ans? C'est ce que font déjà pas mal d'architectes, d'urbanistes et d'entrepreneurs. On avait envie de les entendre, alors on est tombé sur tout un tas de projets plus ou moins futuristico-chelous, genre des villes sur l'eau, des villes dans les airs, des trucs comme ça. Très bien, mais on avait quand même envie plutôt de quelque chose d'un peu concret, des gens qui ont déjà les mains dans l'action, qui sont déjà sur le terrain à faire évoluer les quartiers. Et c'est comme ça qu'on a croisé la route de l'association Bellastock, qui précisément réfléchit à des manières alternatives de penser la construction. On a invité l'un des cofondateurs, l'architecte Antoine Aubinet, à venir nous voir. Et figurez-vous que pour lui, on peut faire en sorte que la ville vieillisse bien.
On se rend compte que les villes qui vieillissent bien, c'est quand on a réussi à intégrer les citoyens dans la démarche de territoire et la démarche de construction de la ville. Et on se rend compte qu'on a des villes qui sont plus utilisées, plus adaptées, plus respectées également. Et souvent on parle de Smart City et du Smart Citizen. Pour Bellastock, en tout cas notre vision, c'est qu'un concitoyen qui est smart, on va dire, c'est celui qui a pris conscience du bas de chez lui, de ses espaces publics, et qu'il l'utilise et en prend soin. Donc toutes les villes ne vieillissent pas mal.
Comment on fait pour réinvestir les usagers, justement, comme vous dites ?
On va faire beaucoup de terrain. Alors il y a deux phases. La première, c'est j'arrive sur un lieu, je vais regarder quelles sont les structures existantes qui utilisent les lieux. Donc je vais avoir une association de sport, une association de jardiniers, une association qui fait à manger pour le quartier. Je vais leur demander quelles sont leurs attentes par rapport à ces espaces publics, comment ils l'utilisent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Ça va nous permettre d'avoir des cahiers des charges. En parallèle, on fait ce qu'on appelle une étude de terrain, où là on est sur place, on a des engins mobiles où on partage un thé, un café, et on prend de l'information habitante. Et là, bah, quelqu'un va nous dire, je vis là depuis 30 ans, il y a 30 ans il y avait un boulodrome à cet endroit, ici c'était l'endroit où on se réunissait pour discuter. Et tu prends toute cette matière que tu mets en comme des cahiers des charges. Toi, tu as repéré les zones importantes sur le quartier qu'il faut réactiver. Et à partir de toute cette matière, tu fais ce que nous, on appelle les constructions temporaires. Donc, on va faire un lieu dédié au sport, un lieu dédié au jardinage. Un autre, on va faire des cuisines mobiles. On va les tester pendant quelques mois, voire un an. Et si certaines d'entre elles fonctionnent bien, on va les intégrer dans le plan d'urbanisme pour pérenniser ces programmes. Et donc, c'est un urbanisme où on se permet de faire des prototypes. C'est un urbanisme où on se permet de ne pas avoir l'image de fin. On implémente le projet au fur et à mesure et on accepte que petit à petit, le projet se construit. Mais on ne commence pas avec l'image finale. Et c'est ça la manière qu'on a trouvée pour l'instant pour pouvoir avoir un urbanisme qui est plus emprunt et plus lié aux gens qui utilisent le lieu.
D'où il faut qu'elle parte cette demande de réinvestissement? Il faut que ça parte des gens directement ou est-ce que c'est au pouvoir public encore de garder la main là-dessus? Ou est-ce qu'il faut justement les court-circuiter quelque part pour que le changement s'opère?
Je dirais qu'il faut que ça arrive des deux côtés. C'est-à-dire que il y ait des quartiers ou des agglomérations qui s'interrogent sur comment récolter la parole habitante, comment proposer des projets participatifs, faire agir des acteurs comme nous qui vont aller sur le terrain pour prendre l'info. Donc ça, c'est sûr que elles ont un levier et c'est important et elles s'en rendent compte. On s'en rend compte de toute façon que les budgets participatifs, il y en a de plus en plus dans de plus en plus de villes. Donc c'est sûr que c'est une piste de réflexion. Et puis après, aussi se rendre compte qu'on est capable, en tant que citoyen, de pouvoir investir un lieu, de pouvoir l'habiter, l'utiliser, le programmer. C'est pas évident, c'est sûr. Nous, c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi être force de proposition et parfois ramener un projet sans avoir forcément les autorisations, mais plus le faire éclore de notre fait. Il faut aussi qu'on... Et ça, je dirais que c'est plus à l'école qu'on pourrait nous apprendre ça. C'est nous apprendre comment une ville est construite, comment un projet urbain se mène et se rendre compte qu'il y a des alcôves dans lesquelles nous, en tant que citoyens, on peut être force de proposition et ramener des projets.
Si on se projette un petit peu dans le futur sans jouer Nostradamus trop, mais à quoi elles pourraient ressembler les villes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Comment vous les imaginez-vous?
Plus inclusive, parce que ça, c'est ce qui est, c'est la suite de ce dont on parlait auparavant. Peut-être moins dépensière en termes d'énergie, notamment au niveau des matériaux. Bellastock, on travaille depuis 2012 sur la question du réemploi de matériaux.
C'est-à-dire concrètement, le réemploi, ça prend quelle forme?
Ça prend quelle forme? Ça évite qu'on démolisse et ça évite tout ce qui est recyclage, enfouissement, où il faut réutiliser de l'énergie pour retransformer le bâtiment en petits morceaux et puis en refaire de la matière. Le réemploi, c'est vraiment, je diagnostique un bâtiment, je regarde comment il est composé, je le démantèle et les éléments que j'arrive à récupérer, je les réintègre dans des nouveaux projets. Il y a encore mieux que le réemploi, c'est de garder le bâtiment tel quel et de savoir le réinvestir avec un nouveau programme. Mais ça, on se rend compte que parfois, on n'y est pas encore. Au niveau culturel, on ne peut pas se dire un hangar industriel de 10 000 m², on pourrait en faire des logements. Faudrait changer un peu notre manière aussi de voir l'habitat et peut-être réussir à réinvestir des friches industrielles comme ça, mais on n'y est pas encore. Donc le réemploi, on va dire que c'est un intermédiaire intelligent pour limiter la casse en termes de ressources. Donc les villes dans 10 ans, peut-être plus économes en matière, peut-être avoir une meilleure approche sur la question de l'énergie et bien évidemment travailler sur nos espaces publics avec les habitants et avoir une ville qui est un peu plus humaine.
Je reste sur la question du réemploi. Par exemple, si un immeuble qui doit être détruit ou refait, qu'est-ce qu'on peut en faire, tout simplement?
Eh bien, C'est très varié, quoi.
En exemple concret.
On prend notre expérience au Clos Saint-Lazare. C'est à Stains. On est dans un quartier qui s'appelle le Clos, où il y a des tours qui sont démolies dans le quartier, et on doit refaire les espaces publics aux alentours. Donc, trois pistes qu'on a développées. La première, c'est tous les murs d'appartements. Une fois qu'ils sont brisés, on se retrouve avec des dalles de la même épaisseur que l'on peut venir déposer en système de dallage. Donc ça permet de faire tous les cheminements dans l'espace public. Toutes les pierres de béton qu'on obtient avec les façades, les murs, c'est des pierres qu'on peut utiliser comme de la pierre sèche. Donc on fait des murets paysagers, on peut faire des jardinières. Enfin, il y a un tas de pistes de réemploi là-dessus. Et dernièrement, ce qu'on a réussi à faire, c'est récupérer un voile entier. Donc un voile, c'est un mur en entier qu'on a carrément découpé, enlevé du bâtiment et qu'on a réutilisé pour faire des locaux poubelles et garages à vélo. Donc voilà des pistes de réemploi potentiel. Et là où, et je rajouterai ça dans la ville, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les 10 ans, c'est que les transformations urbaines aussi, elles profitent aux gens qui vivent dans le quartier. Par exemple, au Clos, toute la revalorisation de ces pierres, depuis ce mur jusqu'à le mettre en dallage, il y a des artisans de chez Bellastock qui sont des tailleurs de pierres, qui sont venus sur place et qui ont formé des gens du quartier qui sont en insertion pour leur apprendre les gestes de ce métier de tailleur de pierre. Et l'objectif à terme, c'est que Bellastock se retire, il va y avoir encore des déconstructions et d'autres espaces publics à aménager, mais que dans le quartier il y ait des gens qui aient désormais les compétences pour pouvoir faire les futurs aménagements du quartier. Donc ce qu'on peut imaginer d'une ville dans 10 ans, c'est que quand elle se renouvelle, elle profite et elle implique les gens qui vivent à l'endroit où la ville se renouvelle.
Reste un grand défi, réussir à faire coïncider les besoins et les envies des habitants avec la volonté et les possibilités des élus, et puis surtout prendre le temps de penser ensemble aux contours de nos villes pour l'avenir. Par ailleurs, rien à voir du tout, mais puisqu'on cause ici d'actualité, vous l'aurez remarqué, vous avez certainement vu dans les nouvelles fraîches la mort de Stan Lee, incontournable figure de la pop culture de par son implication dans Marvel. Bien sachez qu'on en parle dans le tout dernier épisode du No Ciné Club. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Sinon, Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.